Donc, prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné un nouveau jour, une nouvelle semaine qui débute. Semaine, Seigneur, qui n'est pas à l'extérieur de ta connaissance, qui n'est pas, Seigneur, hors de portée de ta main. Une semaine que tu avais prévue, planifiée de toute éternité. Et Seigneur, une semaine que tu avais remplie d'œuvres à travers lesquelles tu veux nous voir exceller et pour lesquelles tu nous as préparés et appelés. Donc nous prions, Seigneur, que ton esprit puisse nous guider tout au long de cette semaine, que tu puisses nous instruire, nous enseigner, nous parler, que tu puisses éclairer nos vies par ta lumière toute puissante et que tu nous montres, Seigneur, ce qui est à changer, à être transformé en nous. Nous voulons, Seigneur, que notre esprit soit ouvert à ta parole. Nous voulons avoir cette grâce, Seigneur, de ressentir ta présence et d'entendre ta voix. Combien, Seigneur, il est profitable pour nous de te savoir à nos côtés, mais aussi, Seigneur, combien agréable est de sentir ta présence, cette présence qui nous rassure, qui nous rappelle que tu veilles sur nous et que tu nous mènes à bon port. Alors ce matin, j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère et sur toutes ces matinées que nous allons passer ensemble à étudier ta parole. Veuille, Seigneur, répandre sur nous ta grâce, veuille répandre sur nous la compréhension de ta parole et veuille nous amener, Seigneur, plus loin que là où nous sommes aujourd'hui, afin, Seigneur, que nous puissions exceller pour toi et que tu en tires gloire et honneur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on saluera d'autres personnes qui se joignent à nous ce matin, sachez que vous êtes déjà tous les bienvenus et on est content de vous avoir avec nous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Tite au chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. On va le décortiquer tout au long de cette semaine, mais il sera à la base de notre réflexion jusqu'à vendredi matin. Donc, le verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Je répète les deux versets. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Alors que Dieu bénisse effectivement sa parole ce matin. Comme je disais, c'est un verset que j'avais dans mes notes pour la prédication d'hier. Mais le Seigneur nous a conduits un peu différemment. On a passé un peu plus de temps sur certaines autres notions. Donc, ce matin, je voulais tout simplement continuer dans la même veine et parler tout au long de cette semaine de la grâce de Dieu, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle apporte chez nous, de ce qu'elle doit soutirer de nos vies, ce qu'elle doit provoquer dans notre existence. Alors, le terme « grâce » qui va revenir tout au long de cette semaine, c'est le terme « charis ». Donc, C-H-A-R-I-S, je répète, C-H-A-R-I-S, c'est un terme usuel, c'est un terme courant, que ce soit dans nos lectures bibliques, bien sûr dans le Nouveau Testament, parce que « grâce »,« charis », et bien sûr en grec, donc vous savez que le Nouveau Testament est foncièrement écrit en grec, avec quelques petites parties, dont le livre d'Hébreux en araméen, mais c'est principalement en grec, alors que l'Ancien Testament, c'est en hébreu. La semaine dernière, on a étudié, je crois que c'était vendredi, un terme qui est le parent, on va dire, hébraïque, de notre terme « grâce » ou « charis » en grec, qui était le terme « chesed », qui était en hébreu. Donc, ceux qui prennent des notes, vous savez donc que le terme « charis », si vous voulez sortir ça dans une conversation, le terme « charis » en grec, en hébreu, c'est le terme « chesed ». Alors, « charis », ce matin, on va voir que ça représente cinq choses. Premièrement, Charis parle des soins que Dieu prodigue. Les soins qu'il prodigue non pas simplement à ses enfants, mais les soins qu'il prodigue à l'ensemble de l'humanité. Jésus va lui-même dire que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, que le soleil vient à prendre soin des uns et des autres. Donc les soins, notre vie de tous les jours, que nous reconnaissions la présence de Dieu, que nous reconnaissions son existence ou non, les soins qui nous sont prodigués à tous les jours, le souffle de vie que nous avons, la santé qui nous est renouvelée, ce ne sont que des grâces de Dieu. Notre capacité à nous mouvoir, notre capacité à travailler, notre capacité à réfléchir, à prendre des décisions, à vivre, est tout simplement une grâce de Dieu. Et à un moment donné, Dieu peut décider, et il en décide effectivement parce que le compte de nos jours est entre les mains du Seigneur, mais à un moment donné, il décide que la clepsydre est terminée, qu'elle s'est vidée, que le sablier s'est vidé, et ce jour-là, il nous amène dans l'éternité. À nous de préparer cette arrivée-là dans l'éternité pour la passer auprès de Christ et non pas rejeter de sa présence. Mais lorsqu'on parle de charis ici, on parle de tout ce qui procure une joie, des plaisirs, des délices, tout ce qui est doux, tout ce qui est charmant pour nous. Donc, et en même temps, la grâce de la parole de Dieu, tout ce qu'elle suscite chez nous, que l'on soit chrétien ou non. Donc, premier point, cette grâce-là qui prodigue des soins de la part de Dieu. Deuxième point, grâce de Dieu qui est comparée à la révélation même de Dieu, lorsque Dieu se révèle. Donc, premier point, c'était Dieu qui prodigue des soins, et ici, Dieu qui se révèle. Dieu aurait pu décider de ne jamais se faire connaître à l'homme. Dieu aurait pu décider que au moment du péché originel, il y avait effectivement rupture avec l'homme, mais que de surcroît à cela, il excluait l'homme de toute présence divine. Donc qu'après la génération même d'Adam et Ève, et qu'ils connaissent leur vie normale, et lorsque la clepsydre ou le sablier arrive à terme, qu'ils n'aient pas eu de descendants, et qu'il soit mort dans l'ignorance. Au lieu de cela, depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui et jusqu'encore au dernier jour de l'histoire de l'humanité, Dieu va tenter, Dieu va chercher, Dieu va vouloir se révéler à l'homme. Dieu a toujours eu le désir de se faire connaître à toi. Dieu a toujours eu le désir que tu puisses le rencontrer. Et ça, c'est une grâce. Parce qu'à cause de mon état de pécheur, à cause des iniquités qui étaient les miennes, et à cause de l'état de souillure qui était mienne, Dieu aurait pu décider de tout simplement me refuser accès à sa présence. Mais la mort de Jésus nous dit qu'à travers sa mort, le voile dans le temple a été déchiré et que ça représentait un accès pour l'humanité auprès de Dieu. Donc ici, lorsque Dieu se révèle, c'est une grâce somptueuse de sa part. Vous voyez, le malheur le plus profond de l'enfer, c'est essentiellement que pour le restant de l'éternité, donc à partir du moment où on passe dans l'éternité et pour tout ce qui suit par la suite, qui est sans fin bien entendu, la personne reste sans la présence de Dieu. Le malheur de la géhenne, le malheur de l'étang de feu, c'est que pendant tout ce temps-là, la personne va être sans aucun accès à la présence de Dieu. Et très souvent, nous en tant que croyants, on prend un peu la présence de Dieu pour acquise. Lorsqu'on a l'habitude de venir à l'église, lorsqu'on a une fréquentation régulière des lieux de culte, lorsqu'on se rassemble pour prier avec nos frères et nos sœurs, ou lorsqu'on a une certaine hygiène spirituelle qui nous amène à lire la parole, à prier, à méditer, à un moment donné, on dirait que on prend des choses comme étant toutes normales et toutes banales. La présence de Dieu n'a jamais été et ne sera jamais quelque chose de banal. L'accès de l'homme à la présence de Dieu ne sera jamais quelque chose de normal, ni quelque chose qui peut se prendre pour acquis. Rappelons-nous, et je ne cesse de vous le rappeler régulièrement, votre statut, mon statut, et je veux m'en souvenir jusque dans l'éternité, je ne veux jamais oublier ça, je suis quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Je suis un gracié. J'étais condamné et j'étais condamnable. Dieu avait toutes les raisons de me condamner. Dieu avait toutes les raisons de m'exclure. Mais au lieu de cela, il a donné son Fils unique afin de me rapprocher de lui, afin que Jésus, par son sang, puisse me pardonner et que je puisse bénéficier d'être dans sa présence et d'avoir accès à sa présence pour le restant de l'éternité. Alors, c'est une merveille que nous ne pouvons pas prendre pour acquise. Donc, un, Dieu qui prodigue des soins, Dieu qui se révèle en point 2, point C, et je viens de l'effleurer, une grâce merveilleuse de Dieu, Dieu qui pardonne et qui sauve. Lorsque hier, on a terminé l'assemblée, on a terminé avec ce vieil hymne qui m'est si cher, « Grâce infinie », en anglais « Amazing Grace ». C'est un cantique qui dit en mots simples ce que représente la grâce de Dieu. « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Donc Dieu qui se révèle, « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Mais la deuxième portion, « J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. » Dieu qui pardonne, Dieu qui sauve. C'est une grâce incommensurable. Pour toute l'éternité, nous serons dans la présence de Dieu à le remercier, à lui rendre grâce pour le salut dont nous bénéficions. La Bible nous dit que lorsque nous serons là-haut, nous comprendrons toute chose, que toute chose nous sera révélée. Lorsqu'on sera là-haut, on comprendra de façon sans limite la grandeur et la majesté et l'incommensurabilité de la grâce et de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Donc, Dieu qui prodigue des soins, Dieu qui se révèle, Dieu qui pardonne et qui sauve. Quatrième point ce matin, une fois que j'ai bénéficié de la grâce de Dieu en recevant le salut, en obtenant le salut et le pardon pour mes péchés, ben, l'autre type de grâce dont la parole de Dieu va nous dire, c'est aussi des grâces pour des habiletés, des grâces dans le synonyme de capacité à faire des choses. Donc ici, ce quatrième point, c'est Dieu qui équipe, Dieu qui forme et Dieu qui élève un homme. Aucun d'entre nous n'est digne de servir Dieu. Pourtant, Dieu nous a tous appelés à le servir. Aucun d'entre nous n'est digne d'être au pied d'un maître comme Jésus. Et pourtant, Jésus nous veut comme disciple, Jésus nous veut comme serviteur. Lui qui, à la base, nous dit que toutes choses ont été créées par lui, donc lui qui a créé l'univers sans le concours quelconque de qui que ce soit, sans l'aide de qui que ce soit, il plaît à notre Dieu, il plaît à notre Seigneur de nous accorder, de prendre une part active à son œuvre, de prendre une part active à son royaume. Imaginez, Jésus va dire que si on se tait, les pierres même vont se mettre à parler. Donc foncièrement, il n'a pas besoin de porte-voix humain. Il pourrait lui-même prendre sa création et faire en sorte que sa création puisse proclamer le message de l'Évangile. Mais il nous accorde cette grâce de pouvoir travailler pour lui. J'aime la représenter cet état de fait ou cette notion comme quelqu'un qui est sauvé, à qui on sauve la vie de façon tout à fait tangible dans notre existence de tous les jours. Tu as un accident, quelqu'un vient, t'extirpe de la voiture, tu es inconscient, il te réanime. Et les ambulanciers viennent et on te dit, s'il n'y avait pas eu ce monsieur ou cette dame pour venir à ton secours, tu serais probablement mort. On se sent redevable à cette personne pour le restant de notre vie. On a beau lui avoir dit merci, mais on sait que, ou on a le sentiment que notre remerciement est bien faible, que notre remerciement ne représente pas l'ampleur de ce que la personne a fait pour nous. Alors imaginons un peu notre relation avec Dieu. Nous comprenons que nous sommes pécheurs. Nous comprenons que nous sommes condamnés pour l'éternité. Nous comprenons que nous devrions être rejetés et ne pas avoir d'accès à la présence de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils. Il meurt pour toi, il meurt pour moi. Nous comprenons le salut par la mort de Jésus et nous accédons à ce statut de racheté, de gracié. Quelle va être ta réponse? Est-ce que ta réponse va être une réponse de quelqu'un qui prend pour acquis cette grâce qui lui a été faite, ou ta réponse qui, je pense, est logique, en tout cas dans ma compréhension, c'est une réponse logique, c'est de dire, Seigneur, tu m'as sauvé la vie, ben cette vie-là t'est consacrée pour le restant de mon existence, pour le restant de l'éternité. Donc, et quand Dieu prend cette vie qui lui est offerte, il la prend pour être à son service, il la prend pour œuvrer à la tâche la plus noble qui existe. N'oublions pas, lorsque nous proclamons l'Évangile, nous amenons des gens au salut, des gens qui vont faire partie de l'Église, des gens qui vont faire partie du peuple de Dieu. Et Jésus est mort pour ces gens-là. La mort de Jésus a servi pour ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. C'était la chose la plus précieuse pour Dieu, le salut de l'humanité. Et ce faisant, il a donc donné la chose la plus précieuse qu'il avait, et c'était son Fils. Alors Dieu te permet à toi, Dieu me permet à moi, dans la mesure de nos capacités, avec des talents qu'il nous donne, avec des habiletés qu'il développe, avec des grâces qu'il dépose en nous, il nous permet de prendre une part active à son service. Le service de Dieu sera toujours une grâce. Servir Dieu devrait toujours être une grâce. Il y a des gens qui ont l'attitude qui n'est pas celle qui devrait être par rapport au service de Dieu. Il y en a qui commencent à servir et qui enfoncent des portes fermées comme si c'était s'il y avait un certain prestige ou une certaine gloire à servir Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Si tu veux servir Dieu pour la renommée de la chose, tu sers Dieu pour les mauvais principes, pour les mauvaises raisons. Si tu veux servir Dieu pour que les gens puissent finalement reconnaître que tu as des dons et des talents, tu sers Dieu pour la plus mauvaise des raisons. Dieu va dire à Jérémie, va prêcher, mais aucun de ceux qui vont t'écouter ne va changer. Va prêcher, mais personne ne va te suivre. Va prêcher, mais tu ne verras aucun fruit. Et pourtant, Jérémie devait faire son boulot. Donc Jérémie n'a pas vu l'acclamation des gens. Jérémie n'a pas eu l'approbation des gens. Jérémie n'a eu personne qui a applaudi pour lui. Et pourtant, il devait faire son boulot. Et pourtant, son boulot restait une grâce que Dieu lui accordait. Donc, quelle est la raison pour laquelle toi tu sers? Est-ce que tu comprends que tu sers par grâce? Est-ce que tu comprends que les talents que tu as, ça ne vient pas de toi? Tu vas me dire, je suis un bon orateur. Ouais, mais le jour où Dieu claque des doigts, finis ta capacité de proclamer ou de faire de grands discours. Tu vas dire, ah oui, mais je suis un grand chanteur, j'ai une bonne voix. Mais si Dieu en décide ainsi, il claque des doigts, tes cordes vocales ne fonctionnent plus. Tu dis, oh ouais, mais j'ai une force physique qui me permet de résister à la douleur davantage que les autres. Donc, si les gens m'attaquent, je vais être capable de persister. Dieu claque des doigts et cette persistance, elle termine. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Pas de ta grâce, pas de tes talents, pas de ton mérite, mais tout simplement la grâce de Dieu qui équipe, qui forme et qui élève qui il veut. Cinquième point. Donc on a vu Dieu qui prodigue des soins, Dieu qui se révèle, Dieu qui pardonne et qui sauve. Et on y va de façon chronologique dans, on va dire, la vie chrétienne. Dieu qui équipe, qui forme, qui élève et qui utilise des serviteurs, et finalement, Dieu qui récompense. Parce que la Bible nous dit que tout ouvrier mérite son salaire. Donc, si Dieu ne récompensait pas du travail que toi et moi on fait, il serait donc un menteur. Donc, Dieu, la règle qu'il impose à tous, il se l'applique lui aussi. Donc, du travail que tu fais pour le Seigneur, tu retires aussi des récompenses. Certaines fois, ces récompenses sont de ce côté-ci de l'éternité. Parfois, les récompenses de Dieu sont aussi de l'autre côté de l'éternité. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'on parle des héros de la foi, lorsque dans ce chapitre qui commence avec « que la foi est une ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère », mais il continue après ça en donnant des histoires bibliques de certains hommes, de certaines femmes qui ont fait preuve de foi, et on appelle souvent le chapitre 11 d'Hébreux comme étant le temple de la renommée des hommes et des femmes de foi. Mais à un moment donné, vers la fin du chapitre, on nous parle d'hommes et de femmes qu'on ne nomme pas, mais on comprend qu'ils ont été des martyrs pour Christ. On nous dit qu'ils ont été écartelés, on nous dit qu'ils ont été jetés en prison, qu'ils ont été jetés aux fauves, qu'on les a mis à mort, que certaines femmes ont perdu mari et enfant en raison de l'Évangile. Et on va nous dire à un moment donné que certains d'entre eux ont refusé la bénédiction ici-bas sur terre, sachant qu'il y avait une bénédiction meilleure qui les attendait. Donc cette bénédiction peut ne pas être ici-bas sur terre. Ça peut être simplement dans l'éternité. Chose certaine, Dieu récompense ses ouvriers. Donc là encore, les suites, les retombées, entre guillemets, le salaire de ton travail, ça reste une grâce. Ce n'est pas un dû. Ça reste une grâce parce que foncièrement, Dieu a fait bien plus pour toi que tu ne pourras jamais en faire pour lui. Donc même s'il décidait que à partir du moment où il t'a sauvé, il ne t'accordait plus quoi que ce soit, tu te débrouillais pour le restant de ta vie terrestre, et c'est pas le cas. Dieu est un bon maître, Dieu est un bon Seigneur, Dieu, son titre de bon Dieu lui va parfaitement, Dieu est un bon papa, Dieu est un bon patron, donc Dieu prend soin de ses enfants, de ses ouvriers, de ses serviteurs, de ses disciples, de ses salariés, Dieu prend bien soin de nous. Mais ces soins-là qu'il nous prodigue sont encore une fois, ou ce salaire-là qu'il nous donne sont encore une fois une grâce. Donc on a vu Dieu qui prodigue des soins, Dieu qui se révèle, Dieu qui pardonne et qui sauve, Dieu qui équipe, qui forme, qui élève, qui utilise, et puis Dieu qui récompense. Par contre, j'aimerais revenir sur le tout premier mot du verset. Car la grâce de Dieu, je répète le verset au complet, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce bien entendu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc on est en train de dire que cette grâce-là va nous former, va nous façonner, pour vivre d'une certaine manière. Mais le mot « car » est important ici. Le mot « car », quand on utilise la conjonction « car », on fait toujours le lien entre deux choses, entre une chose qu'on vient de mentionner et une chose qu'on s'apprête à mentionner. C'est de cause à effet. Le « car » relie la première partie du chapitre à la deuxième partie du chapitre. Et la première partie du chapitre nous parle de la vie de tous les jours. On va nous parler des enseignements que Tite doit donner aux vieillards. Donc, qu'est-ce que les vieillards doivent avoir comme attitude? On va nous parler de ce que les hommes et les femmes doivent avoir comme attitude. On va nous parler de ce que les jeunes gens doivent avoir comme attitude ou comme comportement, comme mode de vie. Et on va terminer au verset 9. Et au verset 10, en parlant des serviteurs, et là je vais être très clair, les serviteurs desquels on parle ici, c'est des esclaves. On parle de gens qui sont au service de maîtres, donc qui sont des esclaves par rapport à leur maître. Et on va dire, exhorte les serviteurs au verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le car ici est important. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que, et je vais rester simplement sur l'exemple des esclaves, on va dire aux esclaves, même si c'est difficile, même si vous voudriez avoir un autre statut, même si vous aspiriez à être des hommes libres que vous n'êtes pas, Paul était en train de leur dire, servez bien vos maîtres. Servez bien vos maîtres afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Afin que le message de l'Évangile ne soit pas terni par votre comportement. Alors il disait, même si vous êtes des esclaves et même si c'est pénible de travailler pour des maîtres, je vous exhorte à travailler pour ces maîtres de la meilleure manière qui soit pour que votre témoignage de chrétien ne soit pas terni par vos actions de tous les jours. La grâce de Dieu peut être ternie par tes actions. Tu prêches la grâce de Dieu, tu enseignes qu'effectivement, et tu proclames et tu annonces et tu déclares que tous les soins que tu reçois, c'est à cause de la grâce de Dieu. Tu proclames que Dieu s'est révélé à toi, tu dis que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a sauvé, tu dis que c'est Dieu qui t'a formé, qui t'a équipé, qui t'a appointé pour un mandat particulier, tu dis que les récompenses que tu obtiens, ça vient de Dieu. Est-ce que ton comportement de tous les jours est en accord avec ce que tu professes? Est-ce que ton comportement de tous les jours vient appuyer, vient honorer ce Dieu que tu dis être ton maître et ton Seigneur, ou ton comportement de tous les jours fait en sorte que les gens autour de toi ne veulent pas connaître ton Seigneur? L'objectif du message de la grâce, c'est d'amener tout homme à la rencontre de Jésus. Le motif, la raison d'être de la grâce, c'est d'amener tout homme au salut. Certains d'entre nous, à cause du comportement que nous avons, à cause de notre attitude, à cause du caractère que nous exposons aux autres, ces personnes ne viendront pas à Christ, parce que le témoignage que je prodigue est mauvais. Certaines personnes professent être chrétiens, certaines personnes professent être utilisées par Dieu, mais tout ce qu'ils démontrent, c'est être méchant, être jaloux, être vindicatif, être violent par leurs propos, si ce n'est par des actions. Alors tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu dis faire à cause de la grâce de Dieu, mais après ça, toute l'attitude de cœur que tu développes, que tu démontres, fait en sorte que personne ne veut connaître ce Dieu pour lequel tu dis travailler. Alors Paul disait, faites bien attention. Paul va dire que lui fait toutes choses pour au moins en gagner quelques-uns pour Christ. Faisons attention à notre témoignage, faisons attention à notre attitude, faisons attention à notre comportement pour que celui-ci ne vienne pas ternir l'évangile de grâce dont nous sommes les porte-voix. Alors je pense que pour aujourd'hui, ça va être ce que nous devions étudier. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu prodigue des soins, c'est une grâce de Dieu. Dieu se révèle, c'est une grâce de Dieu. Dieu pardonne et sauve, c'est une grâce de Dieu. Dieu équipe, forme, élève, utilise, c'est une grâce de Dieu. Dieu récompense, c'est une grâce de Dieu. Alors nous faisons attention à ce que notre témoignage ne vienne pas ternir l'évangile de grâce. Soyons de bons citoyens, soyons de bons individus, soyons de bons représentants du royaume de Dieu. Rempli de grâce, rempli d'amour, de douceur, de patience, de tempérance, manifestons le fruit de l'Esprit dans nos vies afin de ne pas ternir l'Évangile dont nous faisons la proclamation. Alors on va s'arrêter là pour ce matin, on va prier et après ça on va saluer quelques personnes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui prend soin de nous. Merci pour ta grâce qui nous a révélé qui tu étais et ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce qui a pardonné nos fautes, qui a sauvé notre existence et qui nous donne la vie éternelle. Merci pour cette grâce, Seigneur, qui nous forme, qui nous équipe, qui nous instruit et qui nous appointe à des tâches pour lesquelles, Seigneur, tu nous as créés, tu as pensé à nous de toute éternité. Merci aussi, Seigneur, pour tes grâces qui nous récompensent, même si nous savons, Seigneur, que notre travail est bien faible et qu'il ne mérite pas toutes les attentions que tu as envers nous. Mais merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Seigneur, notre désir ce matin, c'est que en rien nous ne puissions venir ternir le message de ton évangile. Que ce soit par nos actions, par nos paroles, par nos gestes, par notre attitude, par notre caractère, que nous puissions manifester que nous sommes de dignes représentants du royaume de Dieu. Que notre comportement de tous les jours ne vienne pas ternir le message si important que tu nous as confié et que tu nous as demandé, Seigneur, de transmettre. Alors je prie pour ma sœur, que cette semaine, Seigneur, elle soit une bonne porte-voix, une digne représentante de ta grâce et de ton royaume. Je prie pour mon frère, pour qu'il soit lui aussi un digne représentant de ton royaume, un instrument, Seigneur, qui n'amène pas la honte sur ton évangile, mais qui dispense droitement les paroles de la vérité. Alors bénis mon frère, bénis ma sœur, que cette semaine, Seigneur, soit placée sous le contrôle de ton esprit, utilise-les et manifeste-toi dans leur vie. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors je m'excuse pour le petit bruit qu'il y a dehors. Ils sont en train de faire des travaux, ils commencent des travaux devant la maison. C'est la voirie qui se met là. Donc simplement saluer quelques personnes, je remonte un peu pour voir qui est là ce matin. Je remonte. Vous êtes nombreux ce matin, je suis content, mais je suis honoré de vous voir aussi. Donc bonjour à Hélène, la fille de notre sœur Bernadette. Content de te voir Hélène, sois bénie. Bonjour à Michel de Sainte-Adèle. Bonjour à Laurette Bilingué, je crois. Je m'excuse si je prononce mal. Dieu vous bénisse. Bonjour à Rebecca. Bonjour au frère Ramon. Bonjour. L'or pur, c'est la sœur Samek qui travaille avec cette connexion-là aussi. Donc, Dieu la bénisse. Bonjour à Judith Dabo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Florie. Bonjour à qui d'autre? La sœur Nina, le frère Rigoberto. Bonjour à Sylvia, Dieu te bénisse. Bonjour au pasteur Joyal, shalom à vous. Bonjour Astrid, qui est cachée sous le pseudonyme Maribel, que Dieu te bénisse. Adriana, que Dieu vous bénisse. Diana, Dieu vous bénisse. Alain Galland, bonjour, que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Véronique Le Sceau, que Dieu vous bénisse. Juan Alberto, Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux ce matin. Et puis, Farley et puis Marie-André, encore une fois, bien le bonjour. Alors, simplement vous rappeler les rendez-vous de cette semaine. Vous avez ce soir avec le pasteur André, à partir de 19h, l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est une étude intéressante qui nous permet de comprendre un peu mieux ce texte qui est souvent obscur pour nous. Donc, soyons là, c'est à partir de 19h, donc bien sûr accessible sur la page Facebook de l'Église et puis via le réseau Zoom aussi. Donc, on vous invite à être là pour le cours à 19h avec le pasteur André. Mercredi soir, même si le pasteur Sergio est en vacances, il a quand même pris soin d'enregistrer l'enseignement de ce mercredi. Donc, vous aurez un enseignement en direct mercredi qui vous sera prodigué et l'étude biblique mercredi est bien sûr servir Dieu en des temps de défi. Donc, on vous invite à être là. Sinon, nous, on se retrouve tous les matins, donc 8h30. Je me connecte un peu plus tôt simplement pour avoir l'occasion de vous saluer, que vous ayez aussi l'occasion de vous saluer les uns les autres. Annonce importante, vous savez que pour les deux prochaines semaines encore, on limite les gens à plus de 30 ans, donc à ceux qui sont plus âgés de plus de 30 ans pour venir le dimanche. C'est par réservation, bien entendu. Donc, vous pouvez faire votre réservation si vous avez plus de 30 ans et que vous voulez assister en ce qu'on appelle présentiel, donc être présent sur place dimanche matin pour le culte. Vous appelez au 514-273-8295, 514-273-8295. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler pour confirmer s'il y a encore de la place, oui ou non. Et puis le nom des personnes qui vous accompagnent. Bien sûr, les personnes qui vous accompagnent doivent elles aussi être âgées de plus de 30 ans. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire par courriel. Donc à ce moment-là, vous écrivez à secrétariat EAJC, en un seul mot, secrétariat EAJC, à commercial@gmail.com. Et là encore, vous nous donnez votre nom, vous nous donnez un numéro de téléphone ou un courriel à travers lequel on peut vous contacter. Et le nom, là encore, des personnes qui vous accompagnent pour l'assemblée de dimanche. Faites vite, parce que les places vont être remplies assez tôt cette semaine, on l'espère. Et parce que vous savez que dans deux semaines, on va ouvrir des 12 en montant. Donc, les gens qui ont 12 ans en montant vont avoir le droit de venir se rassembler avec nous. Donc, les 100 places vont vite être comblées dans deux semaines. Donc, si vous voulez vous profiter d'un peu plus de latitude, vous avez encore deux semaines pour le faire. Après ça, ce sera l'ensemble de l'Église qui aura accès, à part les tout-petits, l'ensemble de l'Église qui aura accès à nos locaux. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. J'étais content que vous soyez là. Passez une bonne journée dans la présence de Dieu. Et on se retrouve demain matin, sinon ce soir, étude biblique avec le pasteur André Bernard. Bonne journée à tous!